Vous écoutez
RMC.
Il est 8h passé de 1 minute et c'est l'heure du journal sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce matin, c'est dur. Les corps souffrent après sans doute la nuit la plus chaude de la semaine, la fin de cette canicule espérée dimanche, mais des orages arrivent déjà par l'ouest. On va faire un point complet. On va vous raconter dans ce journal ce tragique guet-apens mortel à Narbonne où un jeune de 17 ans a été tabassé à mort. Et ce double séisme aussi de forte magnitude cette nuit au Venezuela. Le premier bilan est lourd, au moins 32 morts.
On vient sans doute de vivre la nuit la plus chaude de la semaine.
Oui, Géraldine vient de le dire, à 6h ce matin, il faisait déjà 27 à Nantes, 26 à Paris, la capitale, où la température a mis un temps fou à descendre sous les 30 degrés. Bref, nuit importante, nuit infernale, et c'était pareil ici à Étampes, écoutez.
Celle-là, elle était dure. Franchement, elle était dure par rapport aux anciennes. Je dormais peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je me réveillais, je me rafraîchissais, j'essayais de me rendormir, etc. Il faisait 31, 31 et demi chez moi, donc c'était dur. Je me sens fatigué et là, je manque de sommeil.
C'est catastrophique. On n'a pas dormi, j'ai un bébé à la maison, il n'arrive pas à dormir le pauvre. On a pris 3-4 fois de douche à chaque fois. Et voilà, on essaye de faire avec ce qu'on a à la maison, un petit venti qui tourne tout seul comme ça. Et voilà, on ne dort pas.
On fait comme on peut et on dort pas. Donc vous l'entendez ce matin au micro de Martin Bourdin pour RMC à Étampes. Alors à l'instant, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, annonce que la canicule a fait des victimes, a fait des morts dans la capitale, mais sans donner plus de précisions, sans donner de chiffres. Hier soir, c'est la préfecture du Pas-de-Calais qui déplorait 3 morts de la chaleur dans ce département. Ce matin, il y a donc toujours 72 départements en alerte rouge pour la canicule. Mais Météo France dit déjà que 11 départements de l'Ouest en sortiront dans la soirée. Géraldine, est-ce que ça veut dire qu'on voit enfin le bout du tunnel?
Ah, effectivement, le Nord-Bretagne, la façade atlantique vont être les premiers à avoir baissé les températures, donc ils devraient sortir à 22h de la vigilance rouge, mais pour repasser en vigilance orange pour la canicule. Demain, on devrait par exemple repasser sous les 30 degrés à La Rochelle. Donc oui, on voit le bout du tunnel, même si pour la plus grande partie du pays, il faudra quand même attendre dimanche seulement pour pouvoir respirer. Et si on va voir ces températures baisser, c'est parce qu'on va avoir de violents orages. 10 départements en vigilance orange d'ailleurs pour ces orages. Il faudra être particulièrement prudent à partir de 16h sur les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, sur la Manche, et puis à partir de 18h pour l'Aquitaine, les Hautes-Pyrénées et le Gers. On attend de violentes rafales de vent à plus de 100 km/h et de la grêle et des dégâts qui risquent d'être importants, notamment avec une végétation fragilisée par la canicule.
Et alors à ça s'ajoutent les feux de forêt, risques élevés dans 48 départements, très élevés même dans deux autres, les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne, ce qui est rare pour une fin de mois de juin. Et il y a encore tout un tas de conséquences, notamment dans les transports. La plus notable, c'est en Nouvelle-Aquitaine, Lucas Laubert. Aucun TER aujourd'hui entre 10h et 18h, ce sera pareil demain pour préserver le matériel, c'est ce que dit la SNCF.
Oui, et dès hier, les trains ont été mis à rude épreuve. De nombreuses annulations et retards dans la région, de quoi faire vivre une journée de galère pour beaucoup de voyageurs comme à Agen.
Votre train à destination de Bordeaux-Saint-Jean est supprimé en raison des conditions météorologiques. C'est pénible, là, ça devient pénible.
Il a fallu que j'appelle mon père à la rescousse pour qu'il vienne me chercher, parce que sinon, j'avais pas de solution.
C'est pour éviter que ces scènes ne se reproduisent que la circulation des TER a été aménagée, priorité aux heures de pointe, le matin et le soir. Une décision sage, vu les conditions, selon Christian Broucaret, président de l'association d'usagers FNOT Nouvelle-Aquitaine, mais il craint que les galères ne se multiplient pour les voyageurs.
Les gens, ils viennent travailler, ils vont à la fac, ils vont à l'école. C'est une contrainte de prendre un train plus tôt et de rentrer plus tard. La voiture, ça coûte cher. Il faut rentrer dans la ville, il faut stationner.
Et ces contraintes sont les conséquences directes du manque d'investissement sur le réseau, selon lui.
C'est l'État qui est propriétaire du réseau. Donc l'État n'a pas mis l'argent et on en paye les conséquences dans des conditions extrêmes comme aujourd'hui.
Au total, plus de 100 000 personnes voyagent chaque jour en TER dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Alors, quelles conséquences sur l'économie avec cette canicule? Le patron des Mousquetaires, Thierry Cotillard, sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC. Et l'INSEE dira dans la journée quelle est l'ampleur de la dette au premier trimestre de cette année. Chiffre important puisqu'on est actuellement en pleine préparation du budget 2027. Cette nuit, je vous le disais, la Terre a tremblé de l'autre côté de la planète, au Venezuela. Deux séismes très puissants, coup sur coup. Des images impressionnantes. Les États-Unis proposent déjà leur aide, d'ailleurs. Un premier bilan très lourd. Un Romain Houck fait état ce matin de 32 morts et plus de 700 blessés.
Oui, c'est un bilan encore très provisoire qui risque bien de largement s'alourdir. Tant les images qui nous parviennent de la capitale Caracas et sa région sont impressionnantes. L'aéroport international est gravement endommagé. Des bâtiments complètement écroulés dans des nuages de fumée et de poussière. Un bruit assourdissant. Des habitants pris de panique tentant de fuir les immeubles qui s'effondrent. Et désormais, les secours et des bénévoles qui s'affairent dans les débris à la recherche de survivants. Un film d'horreur, des scènes de guerre, disent déjà certains témoins. Il était 18h à Caracas hier soir, minuit à Paris, quand ces deux secousses successives se sont produites à moins d'une minute d'écart. Des séismes d'une magnitude de 7,2 et 7,5, une très forte intensité. Le tremblement de terre a même été ressenti jusqu'à Bogota, la capitale colombienne, pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau.
Je vous signale que les recherches reprennent ce matin à Biarritz, au lendemain de l'impressionnant effondrement d'un pan entier de falaise qui a tué une plongeuse qui se trouvait là dans l'eau au pied du phare à ce moment-là. Un autre plongeur est toujours porté disparu ce matin. 5 jeunes viennent d'être mis en examen et placés en détention à Narbonne après la mort d'un autre jeune de 17 ans. C'était en fin de semaine dernière. Histoire absolument abominable. Pierre Bazin du service police-justice à RMC. Ce jeune a été victime d'un guet-apens sur un chantier.
Oui, les images sont insoutenables à regarder. Un déchaînement de coups de pied, de coups de poing dans la tête et sur le corps complètement inerte de Louis, 17 ans, un jeune homme placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Pendant de longues minutes, il subit l'acharnement d'au moins 4 personnes. Puis l'adolescent est abandonné au sol dans une cave en travaux. Il n'est découvert que le lendemain par un ouvrier pris en charge par les secours dans un état très grave. Il décède à l'hôpital. 5 suspects sont rapidement identifiés à partir des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils ont été mis en examen hier. Selon le procureur de la République de Narbonne, de nombreux éléments laissent penser que les faits étaient prémédités et qu'un guet-apens a été tendu au jeune homme. Mais à ce stade, on ignore les raisons de ce déchaînement de violence. S'agit-il d'une vengeance ? Existait-il une rivalité entre la victime et l'un des suspects ? C'est ce que l'enquête va devoir déterminer.
On y voit de plus en plus clair ce matin dans le tableau final de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Brésil, Maroc, Mexique, Afrique du Sud, Suisse, Canada et Bosnie aussi en tant que meilleur troisième sont assurés de jouer les 16e de finale en attendant les 6 matchs de la soirée de la nuit prochaine et en attendant aussi les Bleus demain soir contre la Norvège sous la houlette, vous savez, de Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, avec sûrement des changements dans le 11 de départ, Valentin Jamin.
Oui, au moins un changement par ligne alors que les Bleus n'ont que 4 jours de récupération. Aucun risque à prendre. Le défenseur central William Saliba, gêné au dos depuis des semaines, doit souffler et être suppléé par Maxence Lacroix qui va découvrir la Coupe du Monde. À sa droite, Malo Gusto, le joueur de Chelsea, est attendu à la place du titulaire Jules Koundé. Et au milieu, le madrilène Aurélien Tchouaméni n'est plus blessé et doit permettre à Adrien Rabiot, qui a tout joué, de se reposer. En attaque, les 3 stars, Dembélé, Olise et Mbappé, qui a marqué 4 buts, devraient être associés à un autre Parisien, soit Doué, soit Barcola. C'est bien Didier Deschamps, rentré en France après le décès de sa mère, qui tranchera en fonction de ce que ressent sur place son adjoint, Guy Stéphane. En revanche, difficile d'imaginer le sélectionneur communiquer à distance avec le staff pendant le match dans cette période compliquée. Il doit revenir à Boston ce samedi.
Et puis, faut que je recommence, faut que vous écoutiez l'ovation cette nuit. L'ovation... C'était pour Neymar. Neymar ovationné à Miami. Neymar qui est entré à un quart d'heure de la fin du match avec le Brésil durant la nuit. Le Brésil qui a gagné 3-0. 3 ans que Neymar n'avait pas joué avec son pays.
C'était donc le journal de Quentin Vinet et c'est l'heure de l'économie à 8h09.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre qui est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Les cours du pétrole sont presque revenus à leur niveau d'avant-guerre. À quand pour les carburants alors ?
Oui, effectivement, hein, 72 dollars le baril cette nuit, quasiment le niveau qui prévalait avant le déclenchement de la guerre en Iran le 28 février. Sachant qu'entre les deux, on est passé par un pic à 114 dollars le baril. En fait, la tendance à la baisse sur les cours du pétrole, elle est amorcée depuis la mi-mai. En 6 semaines, les cours du brut ont perdu 40 dollars. La règle, c'est 1 dollar en moins sur le baril, 1 centime de moins à la pompe avec un décalage de 8 à 15 jours. Donc pour le moment, les prix du diesel et du sans-plomb 95 ont reculé de 20 centimes depuis la mi-mai, compte tenu de ce décalage. Donc on est bien dans les temps de passage. Rien qu'avec la baisse des prix du pétrole enregistrée ces derniers jours, qui devrait être pérenne puisque le détroit d'Ormuz rouvre, il y a dans les tuyaux une petite vingtaine de centimes de baisse des prix des carburants, ce qui nous mettrait autour de 1,75€ le litre de gazole ou de sans-plomb 95, disons aux alentours du 14 juillet.
Mais enfin, le compte n'y est toujours pas. Ce sera toujours 10 centimes plus cher qu'avant la guerre.
Vous comptez bien,
Apolline. Oui, je vous écoute tous les matins, Emmanuel.
Et c'est vrai. Et là, ces derniers 10 centimes, eh bien, ils pourraient être plus longs à aller chercher pour plusieurs raisons. D'abord, le trafic via le Détroit reste plus coûteux et risqué qu'avant guerre, ce qui entraîne une hausse des primes d'assurance. Ensuite, les marges de raffinage restent plus élevées qu'avant la guerre. Donc ça, ça joue sur 505 centimes à peu près le litre. Et puis, nous, Européens, maintenant, il faut tenir compte de la baisse de l'euro face au dollar qui augmente notre facture pétrolière qui est libellée, rappelons-le, en billets verts. Donc ça, ça fait 3-4 centimes peut-être sur le litre. Donc il faudra peut-être attendre le mois d'août, voire septembre, pour retrouver vraiment les prix qu'on avait, c'est-à-dire, vous savez, 1,65 euros le litre.
Alors justement, précisément aujourd'hui, là, à 8h11, on en est où des chiffres du jour ?
Le gazole, 1,89 le litre. Le sans-plomb 95, 1,90. Donc vraiment, on a retrouvé des niveaux de prix comparables. Le pétrole, bah, 72 dollars, c'est quand même la bonne nouvelle. Et puis le gaz est stable à 41 euros le mégawatt.
Merci beaucoup Emmanuel, il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demanche va venir avec sa chronique humour à 8h30. Le face-à-face, mon invité, c'est le patron des magasins Intermarché, Bricomarché, Thierry Cotillard, ventilateurs, produits frais, glace. Certains supermarchés sont littéralement dévalisés avec les chaleurs. On va parler consommation, on va parler prix, on va parler pouvoir d'achat. Ça se passe donc sur RMC et BFM TV à 8h30. Juste après, il y aura le choix de la rédaction et ce sera avec vous, Mathieu.
Et peut-être qu'au supermarché, vous avez acheté une clim. Récemment, c'est le débat depuis le début de la canicule. La clim va-t-elle nous sauver? La réponse en direct à 8h50. Et puis vous ne manquez rien des dernières infos de la Coupe du Monde, c'est le Mondial de Virginie.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours, car Arnaud Demanche est avec nous. Mais là, aujourd'hui, il a pris une journée. Et donc, on va écouter le meilleur d'Arnaud Demanche sur la chaleur.
Bonjour Apolline Matin et bonjour l'équipe d'Apolline Matin. Tout le monde va bien ?
Oui.
Vous n'avez pas trop chaud ce matin ?
Moi aussi.
Je cuis, je fonds, il fait chaud, c'est horrible. Et comme à chaque canicule, on a les bons conseils du gouvernement. Alerte canicule, pensez à bien vous hydrater. Pour cela, buvez de l'eau. Oh bah merci du conseil le gouvernement. Et attention, évitez également de rester sans chapeau à midi en plein soleil avec une doudoune. Pensez à éteindre le chauffage et n'écoutez pas trop de Zouk Caliente. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Victor, faisons l'amour ce soir.
Je peux dire non ?
Tout de même dans le noir. Il fait trop chaud. Tu peux dire non. T'as intérêt à dire non, même. Pensez, parce qu'il fait trop chaud. Pensez à prendre bien soin des personnes âgées. Mais alors, faites-le subtilement. Parce que moi, j'ai appelé à la maison. J'ai dit, allô, maman ? Ça va? Vous tenez le coup? Vous avez pensé à vous hydrater? Dis donc, je te remercie! On n'est pas si vieux! Et là, ça part en débat et ça n'en finit pas.
Non, je vous
demande juste si vous avez trouvé un endroit frais. Et toi, t'as trouvé un vrai travail? Ton frère, il bosse au Crédit Agricole. Bon, ils n'ont pas l'air d'être assommés par la chaleur non plus, quoi.
C'est une situation, ça, humoriste. Alors, je garde des sceaux. Gérald Darmanin veut stopper l'immigration légale pendant 3 ans.
Oui, comme ça, l'administration française aura enfin le temps de traiter les dossiers de 2019, voire de 2020. Et pour fêter ça, Gérald Darmanin va commander une pizza. Alors, voyons voir. Votre livreur arrivera à 20h37. Eh ben, c'est parfait. Le 28 mai. Ah merde. 2031. Ah non, ça va pas du tout. Ouvrez les frontières. On s'en sort pas. Plus d'immigration pendant 3 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont raconter sur Europe 1? Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ces 3 heures d'émission. 3 heures. Eh oui, 3 heures. 180 minutes, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Il n'y a plus d'immigrés. Et l'émission va durer 3 heures. Et après, alors après, demain, il y aura l'émission de demain. Ne la loupez pas, elle va durer 3 heures aussi. Et on parlera de... Pas d'immigrés, déjà. Et allez, allez, l'émission est déjà finie. C'est déjà fini. Laurence Ferrari, c'est à vous. Oh non, 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 c'est à vous. Non, non, c'est à vous. Les dames d'abord. Moi, ça m'arrange pas. Mon émission, elle dure 2 heures. Oui, bah, la mienne, elle dure 3 heures. Pareil au RN. Ils doivent paniquer. Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu. Ils ont dû avaler de travers. Tanguy et Chenu, vous voyez, c'est les deux figures les plus emblématiques sur le RN, à part Marine et Jordan. C'est un duo rigolo, quoi. C'est un peu comme une sitcom. C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy.
C'est moi le grand.
Et moi le petit.
C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy. Et nous sommes du même avis. Salut Chenu.
Salut Tanguy.
Dis donc Chenu, est-ce que t'as vu que Darmanin propose de supprimer l'immigration légale pendant 3 ans?
3 ans? Non mais alors là, mais vraiment, mais c'est n'importe quoi. Mais on va parler de quoi aux Français? De notre programme économique?
Sinon, on pourrait leur parler de notre programme de politique internationale, il est super bien. Sinon, on pourrait parler d'écologie, on est crédible là-dessus.
Bon, bah, c'est un peu chiant. Les gens qui rigolent, vraiment, c'est pas au niveau. Pas au niveau.
Vous nous refaites le petit jingle, c'est moi.
Et moi, je... Ah, je... Alors, réécoutez-le en podcast.
Ah, il est trop beau, il est
très,
trop beau.
Très dur à faire la
très,
première
très
fois.
Beau, c'était magnifique.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
C'était le meilleur d'Arnaud Demanche. Il est 8h19 sur RMC. Tiens, vous êtes nombreux à nous appeler pour réagir évidemment à cette canicule, à la question du travail. Il y a Olivier qui est avec nous et qui nous appelle de Lyon. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Apolline, oui.
Olivier, je crois que vous vouliez répondre à Sophie Binet. Vous êtes vous-même artisan dans le bâtiment. Je rappelle que Sophie Binet, la patronne de la CGT, elle demandait un droit de retrait climat au-delà d'une certaine température.
Oui, bien sûr, oui, parce que bon, bah moi j'ai plus de salariés depuis des années parce que on était déjà massacrés par les charges et justement c'est par rapport à ça. Si vous mettez des gens, on va dire au chômage, vous les rémunérez comment? Enfin, ils vont bien toucher des indemnités. Donc si c'est pour que Madame Urssaf vous tape encore plus sur la tête, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, moi ces gens-là, faut qu'ils aillent se cacher parce que si c'est pour proposer des trucs comme ça, c'est pas la peine quoi. Venir sur les plateaux pour faire du bavardage, de la discussion, quels que soient les gens, parce qu'on s'aperçoit que c'est que ça en ce moment. On y va à sa petite réunion, à son petit, on va faire une cellule de crise et si et ça, mais en fait il y a rien de pris quoi. En 2003, si je me souviens bien, il y a 26 ans, il y a eu une canicule, il n'y a pas eu un jour férié de prix justement pour les personnes âgées.
C'était effectivement le lundi de Pentecôte qui a été d'abord plus férié et puis finalement aujourd'hui c'est quand même un statut assez hybride et un peu compliqué. Mais Olivier, concrètement, bon, vous dites que vous n'en pouvez plus, qu'effectivement du coup vous n'avez même plus de salaire. Parce que vous ne voulez plus payer les charges, etc.
C'est en dehors de la canicule, bien sûr.
Mais Olivier, quand il fait 40, concrètement, vous allez bosser là?
Bah moi je suis au boulot moi. Mais vous croyez que les artisans et les commerçants ils savent pas s'arranger le matin moi tous mes confrères, que ça soit les plombiers, moi je suis dans le bâtiment, enfin plus aménagement d'intérieur, mais que ça soit les plombiers, les couvreurs, bah ils commencent à 6h jusqu'à éventuellement 13h 14h, ils ont de l'eau à bon, parce que c'est pareil, tout de suite les vilains artisans, les vilains patrons, mais faut pas oublier que la majorité des petits patrons, ils sont sur les chantiers avec leurs artisans, salariés, ils sont pas au bureau.
C'est d'ailleurs ce que disait Sophie Binet, parce que je lui faisais remarquer que vous étiez nombreux à nous appeler au 32-16 pour nous dire qu'en réalité, dans les faits, la plupart du temps, comme vous le dites, on s'adapte, on s'arrange, on se parle. Et d'ailleurs, elle le disait, Sophie Binet, quand je lui faisais cette remarque, elle a dit c'est vrai qu'une grande partie des petits patrons dans le bâtiment, dans le commerce, comme vous dites, eh bien, ils sont aussi sur le terrain avec leurs ouvriers. Merci en tout cas pour votre témoignage, Olivier. Prenez soin de vous. Donc Olivier, dans Lyon, est déjà au boulot. Il est 8h21 sur RMC, mais au boulot, donc plus tôt, il a commencé dès 6h ce matin. Dans un instant, je parle avec un patron justement, c'est le patron des magasins Intermarché du groupement Mousquetaires, Thierry Cotillard, qui répond à mes questions à la fois en tant que patron, tiens, je lui demanderai comment ça se passe avec ses salariés, même s'il travaille sous la clim dans les magasins, et puis sur notre consommation, sur nos prix, il estime aussi que les politiques sont complètement déconnectées, il veut leur lancer un appel, ça se passe sur RMC et BFM TV dans un instant, à tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et on vient de vivre la nuit la plus chaude de la semaine à Paris, à Nantes aussi. 26 degrés à 6h du matin et la température qui a mis un temps fou à descendre sous les 30 degrés dans la capitale. Il y a toujours 72 départements en alerte rouge pour la canicule hein, ce matin, mais on sait déjà que 11 départements de l'Ouest vont en sortir de cette vigilance dans la soirée, avec au passage eh bien, des orages. 10 départements de Bretagne, Normandie et Nouvelle-Aquitaine sont en vigilance orange pour ces orages. Il y en a déjà eu un violent hier soir en Charente-Maritime, il a balayé le village de Loulet et il a soufflé notamment la toiture d'un gymnase dans cette commune. Conséquence de la canicule, des victimes à déplorer à Paris, ce que dit le maire de la capitale Emmanuel Grégoire sans donner plus de précisions, et aucun TER dans le sud-ouest aujourd'hui, demain de 10h jusqu'à 18h la journée, donc pour préserver le matériel, explique la SNCF. Les recherches reprennent ce matin à Biarritz au lendemain de l'impressionnant effondrement d'un pont de falaise qui a tué une plongeuse qui se trouvait au pied du phare à ce moment-là. Un autre plongeur est toujours porté disparu. L'info de la nuit, c'est le bilan d'au moins 32 morts et 700 blessés au Venezuela après le double séisme de forte magnitude dans ce pays d'Amérique latine. Des bâtiments effondrés avec des scènes de panique à Caracas. Et puis la Coupe du Monde de foot à la veille de France-Norvège, le Brésil, le Maroc, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Suisse, le Canada et la Bosnie en tant que meilleurs troisièmes ont assuré leur place cette nuit pour les 16e de finale.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, on va parler consommation. Avez-vous changé vos habitudes depuis le début de la canicule? Je poserai la question à celui qui est vraiment aux avant-postes de la vie des Français, le patron des supermarchés Intermarché. marché, Thierry Cotillard. Il vient évidemment nous parler prix, inflation et canicule. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Cotillard.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le patron des magasins Intermarché, Bricomarché, Netto, le président du groupement Les Mousquetaires. Très nombreuses questions à vous poser. Évidemment sur la canicule, la façon dont les Français s'adaptent, dont vos employés aussi s'adaptent partout sur le territoire. La question des prix, la question des carburants. Et puis aussi plus globalement, votre regard sur ces politiques qui, d'après vous, sont de plus en plus déconnectées. Vous nous direz pourquoi. Mais d'abord, ce que vous voyez, vous, dans les magasins, du côté à la fois des salariés et du côté des consommateurs, cette canicule qui s'est abattue et qui dure sur la France, elle a quoi comme conséquence?
Alors déjà, je voudrais avoir une pensée pour tous nos salariés, toutes ces femmes et hommes qui travaillent dans des conditions, il faut reconnaître, difficiles, dans nos entrepôts, dans nos outils de production, dans nos points de vente, même s'il y a la climatisation. Mais les nuits sont pas plus fraîches et ils sont là tous les matins pour tenir la chaîne alimentaire. Donc je voudrais vraiment avoir une pensée pour eux et les remercier. On a évidemment une conséquence de ça dans nos magasins. Déjà, il faut le dire, on a un trafic qui est plus important, tout simplement. Parce
les gens viennent
frais.
Plus.
Exactement, ils vont venir...
chercher la fraîcheur.
Ils viennent chercher la fraîcheur. Et puis lorsqu'ils sont dans nos supermarchés, la consommation elle est totalement différente des semaines passées où il n'y avait pas ces températures. Donc on assiste à l'explosion de vente, évidemment, des glaces, de l'eau, la proportion c'est on double les volumes,
on double les
volumes puisque sur les eaux on est à 80% de progression, les glaces on est à 50%. Et après, vous avez les familles de produits qui évidemment répondent à leurs besoins. C'est la fraîcheur des produits frais, notamment des fruits et légumes, où sur le melon on fait plus 50%.
Et les gens restent davantage, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là, dans vos magasins, ils n'en ressortent pas si vite.
Ouais, ça traîne en magasin et il y a pas de sujet de sécurité, il y a pas de sujet. En tout cas, il y a un vrai confort. Je pense que c'est la même chose dans les grands centres commerciaux, c'est la même chose dans les cinémas. Et donc, effectivement, c'est un lieu paisible où il fait bon vivre en ce moment.
Donc, l'alimentation, on imagine évidemment, et là, c'est peut-être plus chez Bricomarché qu'il y a les clims, les ventilateurs, tous les produits qui rafraîchissent. Vous en êtes où et est-ce que vous arrivez à répondre à la demande?
Alors, on a des records de vente. Vous avez cité Bricorama, Bricomarché, on a aussi Bricocash. C'est 100 000 ventes sur la seule semaine dernière. C'est énorme, c'est x5 par rapport aux habitudes.
De quoi? De ventilateurs, de clim?
Ventilateurs et clim avec une première position pour les climatisations. Elles sont plus vendues que les ventilateurs. Et la réalité, je vais pas vous mentir, c'est qu'on est en rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des magasins qui sont en attente d'approvisionnement pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Donc on a été surpris parce que c'est venu violemment. Et puis vous savez bien que c'est des produits qu'on fabrique pas en 15 jours. Ça vient, il y a un délai de production et donc on est en train de trouver des nouveaux fournisseurs pour nous approvisionner.
Des nouveaux fournisseurs, vous allez pouvoir répondre à la demande là dans les jours qui viennent.
C'est en train d'arriver. Les ruptures, ça dure 24-48 heures. Et puis vous savez, on est aussi un réseau qui est bien implanté. Donc on se passe de la marchandise d'un magasin à l'autre pour pouvoir répondre.
Mais ça veut dire aussi quand je vous écoute. Vous, et hier, à ce même micro, j'avais la patronne d'Europe Écologie Les Verts, enfin des écologistes comme ça s'appelle désormais, Marine Tondelier. C'est un débat qui est devenu politique. On a l'impression que la clim serait de droite, que les anti-clim seraient de gauche, que ça devient un clivage. Alors même si, petit à petit, il y a une forme de consensus. Vous dites, les Français, c'est ni de droite ni de gauche, ils veulent la clim.
Mais non, mais c'est très factuel, c'est du bon sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, le sujet de fond, c'est la rénovation probablement de l'habitat et les passoires thermiques qu'on a en France, où ça fait très froid à l'hiver et ça fait très chaud l'été. Et donc, il faut, qu'on soit de droite ou de gauche, un plan de rénovation de l'habitat, comme il faut un plan de relance de la construction, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais en fait, les Bricomarchés font du chiffre cette semaine, le font depuis 15 jours. Mais c'est un marché qui recule depuis 3 ans. Et on recule parce que la France n'a pas un programme pour permettre aux Français d'avoir une première propriété, une première maison, une première habitation. Donc, l'arrêt de la construction fait qu'évidemment, les gens qui nous achètent les parpaings, les gens qui nous achètent du gros matériel ne le font plus. Tous les artisans sont à l'arrêt et c'est ça qu'il faut relancer.
Et ils se retrouvent du coup à devoir gérer l'urgence et l'urgence c'est la clé.
Exactement, exactement. Donc ayons une vision, c'est le moment de l'exprimer puisqu'on est à l'approche des présidentielles. Qu'on soit de droite, de gauche, il faut absolument qu'il y ait un plan de relance de la construction, de l'habitat et la rénovation pour éviter adapter les passoires thermiques.
Une question sur le travail, Thierry Cotillard. Est-ce que vous avez adapté les horaires? Vous le disiez, dans les magasins, certes, il y a la clim, mais il y a tous ceux qui travaillent dans la manutention derrière, dans les livraisons, dans le transport. Est-ce que les horaires ont été adaptés?
Alors, il y a eu un débat, est-ce qu'il faut un congé climatique, etc. Moi, je suis pas favorable à ça. J'ai envie de vous dire, on met du bon sens. Alors, pour une grande partie de nos équipes, on bénéficie de la clim dans les magasins. C'est un confort et pour eux, ça va bien. Après, la réalité, c'est que dans le magasin, vous avez la partie arrière du magasin, qui est en fait la réserve du magasin, où là, on va frôler les 40-45 degrés. Donc, on y met du bon sens. Vous voyez, pendant le match de foot, on fait une pause et on va faire une pause d'hydratation.
La pause fraîcheur, la pause
On l'a mis en place et puis sur certains entrepôts, on attaque un peu plus tôt, on a modifié les horaires. Pour justement permettre aux salariés de vivre dans des conditions de
travail. Vous n'avez donc pas besoin, vous estimez que vous n'avez pas besoin d'un congé climatique à proprement parler, voire même le congé climatique, ça c'est les écologistes qui le portent. La CGT, je recevais Sophie Binet ce matin, qui demande elle un droit de retrait. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine température, on puisse faire valoir son droit de retrait.
Oui, alors vous avez compris l'objet de ma première intervention qui était de remercier nos salariés. C'est que si on se met tous en retrait, comment on fait pour nourrir la France? Donc il faut remettre du bon sens. Et je crois que la proximité managériale et le dialogue social qu'on a doit permettre de trouver les solutions. Il faut qu'on arrête en France, à chaque fois qu'il y a un problème, de vouloir trouver la solution par une loi, un décret. Heureusement, les Français sont quand même ont du bon sens et savent réagir.
Donc, pas question ni d'un droit de retrait, ni d'un congé climatique. Il y a aussi la question des prix, et des prix à la pompe d'abord. Ça baisse, le prix du baril baisse beaucoup, oui. Le prix à la pompe baisse un peu, mais il est encore assez nettement au-dessus prix d'avant-guerre. Quand est-ce que, à ceux qui nous écoutent là ce matin, vous qui faites partie de ces distributeurs, quand est-ce que ça va revenir à avant?
On a connu le pire de la crise, c'était 2,40. On est à 1,90, ça fait 50 centimes de moins. On est toujours 20 centimes au-dessus de, j'allais dire, la normale. Il y a une stabilité, en fait, je vais pas m'aventurer à faire un pronostic, parce que vous voyez bien qu'en fonction des déclarations de Trump et l'évolution du contexte géopolitique, ça va varier. Ce qui est sûr, c'est que plus on ira vers la stabilité et l'arrêt d'un conflit, plus on a de chances de retrouver le prix d'avant. Et le prix d'avant, il y a encore 20-30 centimes qui manquent aujourd'hui pour retrouver.
On peut le retrouver.
On
peut ou on va?
Si la situation géopolitique est sous contrôle, on va le retrouver, puisqu'en fait, c'est les tensions géopolitiques qui créent effectivement cette tension sur la matière première et le prix à l'essence qui varie. Ce qu'il faut retenir, c'est que, on l'a expliqué, on est venu vous le dire, et mes confrères aussi, c'est un produit d'appel, donc dès que ça baisse, on baissera. Et là,
vous ne ferez pas de la rétention de prix, quoi.
Non.
Vous avez vous-même intérêt à ce que ce prix soit bas.
Il y a une vraie compétition commerciale. Vous savez, les Français, ils passent d'un parking à l'autre, ils voient
les prix. Ils voient sur le totem.
Évidemment, donc on a aucun intérêt à le faire. Et ce qu'on va faire là pour le départ en vacances, qui arrive là, c'est dans 15 jours, le 4-5 juillet, on fera une opération prix coûtant. C'est-à-dire qu'on
le
vendra
4
vraiment
et 5 juillet, exactement, opération prix coûtant
dans tous les intermarchés.
Ça veut dire que ça sera à combien à peu près? Enfin, je veux dire, ça peut encore baisser d'ici là, mais
On va pas baisser à 1,50, puisqu'on vous l'a expliqué, c'est 1 centime de marge. Donc au lieu de 1,88, ce sera peut-être 1,86, mais au moins le consommateur saura que chez nous, ce sera le prix le plus bas du marché.
Prix coûtant le week-end donc du 4-5 juillet. Emmanuel Lechypre disait qu'il estimait autour du 14 juillet le fait de pouvoir encore baisser assez. Est-ce qu'il y aura un autre palier en août?
On espère qu'en gros, à la rentrée, ce soit terminé, quoi. Ce serait la meilleure des nouvelles pour les Français.
Mais pas pendant l'été.
Ça paraît difficile.
Il va falloir cet été. Se résoudre à une essence.
Se résoudre encore à quelque chose entre 1,60 et 1,90, certainement.
La question des prix, c'est aussi les prix dans les rayons. Vous avez été accusé, et notamment par cette commission, mais aussi par les industriels, au fond, de faire du gras, et de pousser les prix. Que les prix, ce ne seraient pas les industriels, eux, qui les feraient monter, mais vous, la grande distribution. Et vous avez décidé de lancer votre propre pub, en quelque sorte, comme si on avait besoin d'entendre que c'était vous qui étiez du côté du pouvoir d'achat des Français. C'est quoi? C'est du marketing ou c'est vrai?
On a très mal vécu. On a très mal vécu ce rapport qui était très à charge contre la distribution, qui d'ailleurs annonçait
l'Assemblée
nationale, qui annonçait un chiffre fou en disant sur 100 euros, 40% va à la grande distribution. Et en fait, ils ont reconnu que c'est totalement faux. C'est 40%, 40 euros vont dans tous les secteurs de distribution, que ce soit les cantines, les restaurants et la grande distribution qui lui prend 9 euros. Et quand on prend 9 euros, à la fin, vous le savez, il reste moins d'un euro ou un euro. Donc ce qu'on a voulu depuis lundi, d'ailleurs mon confrère, le patron de Carrefour est venu vous l'expliquer, et je suis là pour en remettre une couche, c'est qu'on a voulu apporter de la pédagogie. C'est-à-dire que aujourd'hui, et on s'adresse pas forcément aux multinationales, parce que j'ai envie de vous dire, elles sont dans leur rôle, elles sont dans leur jeu de vouloir...
On parle de Coca, on parle de Danone, on parle de... Mais c'est on parle aussi des PME.
Oui, mais notre cible, elle est sur les grosses multinationales. Parce que quand on attaque les négociations, pour vous donner un ordre d'idée, les petites et moyennes entreprises, depuis 2-3 ans, arrivent avec des hausses de tarifs de 4%. Toutes les grandes marques arrivent avec des hausses de 8 à 10%. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu démontrer depuis lundi? On a pris 12 produits. Les plus connus, vous venez de les citer, Coca-Cola, Nutella, le granola. On a pris le prix qu'on avait acheté en 2021 et on l'a comparé au prix actuel. Donc, un panier qui coûtait 37 euros, aujourd'hui, le même consommateur français le paye 51. Mais on a été plus loin. On a dit, si on n'avait pas fait la négociation, combien il aurait payé? Et il aurait payé 72 euros. Donc vous comprenez.
C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que vous allez désormais vraiment le dire haut et fort. Vous en faites une pub. Vous montrez ce panier avec donc les 12 produits de grande consommation dont vous parliez à l'instant. Vous dites avant négociation c'était 71,49 €. Après vos exactement. Négociations c'est 52,12 €.
Oui. C'est exactement ça. Et on part d'un prix qui était à 37. Donc
enfin,
on...
c'est vous qui avez choisi les produits en même temps.
On les a choisis.
J'imagine que c'est oui, ceux mais qui... Non, c'est mais... ceux que vous avez réussi à négocier le plus.
Non, pas forcément. Parce qu'en fait, la moyenne de la négociation, c'est qu'en général, on arrive à enlever la moitié du tarif. Quand on nous propose 5, on arrive à 2 ou 2,5.
Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous refusez?
On fait ça parce qu'en fait, on pense que le politique... à une totale négation de notre métier de négociateur. Et on trouve ça extrêmement dangereux, surtout à quelques mois de la présidentielle, où on se dit, en fait, si on nous interdit de pouvoir négocier, ne pas négocier, c'est avoir des tarifs qui vont être en augmentation et donc un pouvoir d'achat qui va être attaqué en France. C'est-à-dire que le même pot de Nutella aujourd'hui, au lieu d'être à 6,80 €, on va dire en moyenne sur le marché français, il va passer à 10 €. Le Coca-Cola passera à 3 € au lieu de 40. Donc on veut bien tout, mais on veut surtout prévenir que s'ils prennent la mauvaise loi, on ne veut pas être les responsables de cette inflation, mais ce seront les politiques.
Là, vous nous parlez de Coca, vous nous parlez de Nutella, mais qu'en est-il de la viande française? Qu'en est-il des produits français, des produits frais?
Alors, on a
nos agriculteurs.
Parce que
j'imagine que le Nutella, il n'y a pas beaucoup
qui
vient de nos agriculteurs.
Et si vous voulez, c'est là où il y a un sujet, c'est que cette loi, elle est là pour répondre à l'urgence agricole. Donc, il faudrait une loi où on nous impose, par exemple, la transparence sur le prix payé, puisque nous, on n'a pas l'achat direct de toutes les matières premières agricoles. Vous comprenez, c'est entre nous et l'agriculteur.
On rappelle comment ça marche. En gros, il y a trois acteurs. Il y a la matière première, c'est-à-dire l'agriculteur, pour faire vite. Il y a l'industriel,
exactement.
C'est-à-dire celui qui transforme ce produit brut en produit qu'on achète. Et ensuite, il y a vous qui achetez les boîtes de biscuits ou le pot de
exactement.
Nutella. Ok. L'industriel, c'est lui qui négocie avec l'agriculteur. Vous ne savez pas au départ,
à 80%.
Sauf pour vos propres marques de distributeurs, mais vous ne savez pas, vous, quelle pression il a mis sur l'agriculteur au départ, c'est ça? Et
c'est
vous
ça.
Demandez à ce que quand il vous vend, je sais pas moi, son jambon Hertin, il vous dise quelle est la part qui revient à l'agriculteur.
On demande deux choses. On demande déjà l'origine. Le porc est-il français lorsqu'on achète le jambon Hertin? Ce qui n'est pas le cas dans la moitié des cas. Il est espagnol ou allemand.
Même s'il y a marqué porc français?
Il doit pas le mettre puisque il est fabriqué en France. C'est pour ça qu'il a bleu, blanc, rouge. C'est que l'abattoir est en France et l'outil de production est en France. Mais le
porc, il peut avoir grandi.
Le porc vient d'avant. Donc c'est pour ça qu'on pousse deux choses. On dit, il faut être très clair. Il faut une obligation de transparence vis-à-vis de nos consommateurs. Donc on veut savoir non pas où est fabriqué le produit, mais d'où vient la matière première. Donc l'origine info, ça devrait être quelque chose qui devrait être obligatoire. Aujourd'hui, c'est facultatif. Et la deuxième chose, c'est évidemment cette transparence. Quel est le prix que Herta paye auprès de ses producteurs de porc? On n'a pas cette réalité-là. Nous, je peux vous en parler, on a des abattoirs chez Intermarché et donc on a des contrats avec des éleveurs bretons ou de
France. Donc vous pouvez faire la comparaison.
On fait la comparaison et nous, on a des contrats qui définissent des prix où justement pour les protéger, on a calculé le coût de revient de ce qu'a besoin l'agriculteur pour vivre et on va le rémunérer au-dessus.
On a parlé d'Herta, mais ça pourrait être Fleury Michon ou Le Gaulois. Thierry Cotillard, votre compère, Alexandre Bompard, lui, il dit, donc Carrefour, il dit l'inflation n'augmentera que très peu cette année. Michel-Édouard Leclerc, à l'inverse, dit il va y avoir une très forte reprise de l'inflation. Vous dites quoi?
Je vais pas mettre entre les deux. Je vais vous raconter, nous, la lecture qu'on qu'on a, il n'y aura pas d'inflation. Elle sera maîtrisée. Elle est en gros autour de 1% cette année en 2026. Et en fait, malgré effectivement les conflits géopolitiques et l'inflation qu'on peut avoir de certains produits, l'essence, certes, on ne vit pas le choc de matières premières qu'on a connu pendant la guerre en Ukraine, puisque les matières premières, notamment agricoles, n'ont pas explosé. On n'est pas en pénurie. Ça veut donc dire qu'il y a des clauses dans les contrats qui prévoient avant tout choc, de revoir le prix s'il y avait des événements comme cela. Et quand on regarde les clauses, ce qu'on appelle des clauses de revoyure, rien ne s'activera cette année.
Ça rien veut dire ne qu'il justifie faudra, qu'elle s'active.
Très rare exception.
Certains vous les ont demandé.
Certains, très rares, ceux qui ont un impact fort comme les minéraliers, ceux qui vendent de l'eau, puisque le plastique a explosé. Mais c'est vraiment l'exception. La généralité aujourd'hui ne justifie pas une inflation. Le sujet va venir, par contre, en mars 2027 pour les prochaines négociations.
On va y venir parce que vous voulez rencontrer les différents candidats à la présidentielle, mais Thierry Cotillard, sur la question de la hausse des prix, la canicule actuelle va-t-elle avoir une conséquence aussi sur le prix des produits agricoles, justement, sur les fruits, les légumes, sur la viande ?
Oui, malheureusement. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des productions qui sont en train de baisser. Hier, j'étais avec des producteurs de lait de notre laiterie Saint-Père. Émilie, Élodie nous expliquaient que, évidemment, la vache, elle produit 20% de lait en moins. Les conditions d'élevage sont très difficiles. Il y aura de la mortalité aussi. Mais surtout, pour la production maraîchère, il y aura des productions qui vont pas sortir de champ parce qu'on va manquer d'eau. Donc, le melon, qui aujourd'hui n'est pas en pénurie, je vous le dis, il y a des vrais risques de pénurie dans 3-4 semaines parce qu'on n'en aura plus. Et à ce moment-là, les prix vont flamber puisque l'attente des Français sera toujours là pour avoir du melon, mais l'offre sera moindre. Donc, on va pas être à 2,60 ou 2,80 le melon, mais on risque d'être beaucoup plus cher.
Vous anticipez donc à la fois pénurie et donc, puisque tension, hausse des prix. Je le disais, vous rencontrez les différents candidats à la présidentielle. Je crois que vous avez déjà rendez-vous avec Gabriel Attal. Vous aurez rendez-vous avec tous ?
On va tous les voir. On ne les voit pas à titre individuel. C'est pas le patron de Carrefour ou d'Intermarché qui les voit. C'est le patron,
c'est le représentant de la grande distrib, quoi.
C'est le secteur, c'est-à-dire la fédération du commerce qui les reçoit. Donc l'ensemble des patrons de la distribution vont recevoir l'ensemble des partis de gauche, de droite et tous les partis représentés à l'Assemblée nationale.
Y compris LFI, RN.
Et on va leur donner le même temps de parole.
Ça vous pose aucun problème. C'est-à-dire que vous considérez désormais qu'il faut traiter tout le monde pareil.
On considère que ce sont des représentants des Français et que on doit justement s'adresser à eux pour leur donner notre lecture économique des sujets, des problèmes, en espérant qu'ils puissent apporter une solution.
C'est quoi votre lecture économique aujourd'hui ? Vous avez exprimé que pour vous, les politiques étaient, je cite, déconnectés de la réalité politique. Je recevais Patrick Martin, le patron du MEDEF, il y a deux jours, qui lui considérait même que la France décroche, qu'ils n'ont pas pris la mesure d'un certain nombre d'évolutions partout autour, sauf chez nous. Quelle est votre lecture à vous ?
Moi, j'ai cette lecture-là. Je pense qu'il y a une déconnexion, il y a une méconnaissance du monde économique. C'est souvent des gens qui n'ont fait carrière que dans la politique et jamais dans l'entreprise. Donc, ces échanges-là, j'espère, leur permettent de se mettre à niveau. Donc, on attend plusieurs choses. La simplification, on est dans un pays de normes. On s'attend surtout, comme un chef d'entreprise, à s'attaquer à la dette publique pour qu'on arrête à chaque fois de demander un nouvel impôt, une nouvelle taxe pour solutionner le déficit budgétaire. Et puis, j'aimerais bien que ces politiques aient la vision qu'on a, nous, de chefs d'entreprise, c'est-à-dire des plans de croissance. J'ai commencé l'intervention en disant il faut un plan de relance de la construction. Il faut aussi faire de l'alimentation une cause nationale pour être sûr que nos agriculteurs
vivent. Mais ça veut dire quoi, faire de l'alimentation une cause nationale ? Je veux dire, au-delà du slogan.
Eh bien, que le ministre de l'Éducation travaille avec le ministère de l'Agriculture pour qu'on ait des cours dans les écoles pour enseigner les fruits de saison, pour réexpliquer que le produit ultra transformé peut être dangereux pour sa santé.
Mais est-ce que tout ça n'a pas été déjà un peu fait ? Les 5 fruits et légumes par jour ?
Non, on n'a pas assez fait, puisqu'on a passé aussi notre temps avec les derniers gouvernements à voir les ministères. C'est des projets qui sont à l'étude et il faut absolument que ce soit mis en haut de la pile pour le programme présidentiel de 2027.
Comment va le loup ?
Le loup va bien. Il a rendu visite à certains enfants malades dans les hôpitaux. On est très contents de cette sortie. Ça leur a fait du bien.
Merci beaucoup Thierry Cotillard d'avoir répondu à mes questions ce matin. Président donc du groupement Les Mousquetaires, Intermarché, Bricomarché, Netto et autres. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, il est 8h47 sur RMC. Le mondial de Virginie, c'est avec vous, Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Dans un instant, les toutes dernières infos sur la Coupe du Monde. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Louis Salé, c'est dans une minute sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC. Neymar a joué cette nuit. Vous allez nous le raconter, Virginie, dans le mondial de Virginie, dans un instant. Mais d'abord, le choix de la rédaction. Bonjour, Louis Salé.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service société d'RMC. Face au réchauffement climatique, le débat sur la climatisation est relancé. Les Français s'équipent de plus en plus. Un quart des logements sont climatisés, selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et selon le réseau de transport d'électricité, la moitié des logements français seront équipés en 2035. Mais est-ce que ça a des conséquences ?
Alors oui, évidemment, hein, mais attention, il ne s'agit pas du tout de dire que la clim, c'est mauvais. La preuve, on en discute bien au frais dans ce studio. L'idée, c'est plutôt de comprendre quels sont les impacts négatifs et si on peut les limiter. Alors le principal problème, c'est la chaleur qui est rejetée. Démonstration dans une rue parisienne devant la sortie d'une climatisation avec un thermomètre tenu par Vincent Viguier, chercheur en économie de l'environnement.
Dans cette rue, à l'ombre, il est à peu près midi, il fait aux environs de 35 degrés. On a mis un thermomètre devant la bouche d'air chaud d'un climatiseur de la rue. En fait, la température de l'air en sortie du climatiseur est proche des 53 ou 54 degrés. Là, c'est l'air qui est juste en sortie du climatiseur. Cet air va se mélanger dans la rue, mais ça va contribuer à une augmentation des températures dans des rues étroites. Des études ont montré que l'augmentation de température pouvait monter jusqu'à 10 degrés.
À l'échelle d'une ville en pleine canicule, la température peut augmenter d'environ 2 degrés hein, globalement à cause de ces rejets d'air chaud. Dans les lieux végétalisés, l'effet est un peu limité. Et puis si les clims sont en hauteur, la chaleur est moins concentrée. Donc les installer sur les toits, par exemple, peut être intéressant.
Alors attendez, est-ce qu'il y a une différence selon les modèles de clim ?
Oui, les petits climatiseurs, alors certes moins chers, plus pratiques, sont très énergivores. C'est un peu comme les grille-pains là qu'on utilise comme un chauffage d'appoint l'hiver. Leur efficacité est réduite parce que vous faites eh bien passer le tuyau par une fenêtre entrouverte. Ils consomment beaucoup et sont aussi plus susceptibles d'émettre des fluides frigorigènes. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des gaz qui réchauffent l'atmosphère jusqu'à 2000 fois plus que le CO2. Heureusement, la réglementation est en train de se renforcer pour limiter la présence de ces gaz.
Et alors, est-ce que certains modèles sont plus vertueux ?
Les climatiseurs fixes installés par un professionnel sont moins concernés par ces fuites de gaz. Ils sont bien entretenus aussi. Ils sont évidemment plus chers, plusieurs milliers d'euros souvent en comptant la pose, même s'ils sont moins coûteux sur le long terme en énergie. La solution la plus satisfaisante, c'est la pompe à chaleur réversible. C'est un système qui va vous réchauffer l'hiver et vous refroidir l'été.
Oui, alors Louise, une dernière question. Est-ce que notre production électrique peut supporter autant de clim partout ?
Si on veut que l'énergie soit décarbonée, issue du nucléaire et du renouvelable, il va falloir en produire plus, hein, ça c'est certain. Nicolas Goldberg est expert énergie chez Columbus Consulting.
Aujourd'hui, on n'a pas de problème pour approvisionner la France en électricité, même si tout le monde démarre sa clim. Par contre, en période de canicule, on a une consommation électrique supplémentaire qui est significative, qui équivaut à 10 à 12 centrales nucléaires. Et c'est pour ça qu'on a démarré des centrales au gaz. Et ça, dans les années à venir, ça pourrait s'accentuer si on s'éclipse plus en clim. Et donc, il nous faut plus de production électrique décarbonée.
Et pour que la climatisation ne tourne pas à plein régime l'été, il faut aussi qu'elle soit accompagnée d'autres solutions de rafraîchissement, végétaliser les villes, équiper les bâtiments de stores et de volailles, puis surtout les isoler. Si vous climatisez une passoire thermique, c'est comme en hiver, vous allez avoir des pertes d'énergie très importantes.
Merci beaucoup. Louise Salé, journaliste au service société d'RMC. Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. On va parler de la Coupe du Monde.
RMC. Le mondial de Virginie.
Et ça y est, Neymar a commencé sa Coupe du Monde. Il est entré en jeu lors de la victoire du Brésil. 3-0 contre l'Écosse.
Trois ans qu'il n'avait plus joué avec le Brésil. Et là, cette nuit, Neymar est réapparu. Carlo Ancelotti l'a fait entrer pour le dernier quart d'heure du match contre l'Écosse sous les ovations du public de Miami. Alors Neymar, il n'a pas marqué, pas besoin, le Brésil menait déjà 3-0 quand il est entré en jeu, le score en est resté là, mais ne serait-ce que sa présence redonne le sourire à tout le peuple brésilien.
Le Belge Jérémy Doku est lui de retour auprès de sa sélection après la naissance de son fils.
Un retour triomphant auprès de son équipe après son aller-retour express à Londres, la fédération belge parle de la passe décisive la plus importante de sa vie. Bon, je suis pas sûr qu'on soit obligé de mettre des termes de football là-dedans, mais pourquoi pas après tout. La maman et le bébé vont bien, c'est un garçon. Il s'appelle Praise.
C'est qui ça déjà?
C'est Fatboy Slim, Praise You. Chantez les louanges pour traduire, voilà.
Alors on connaît l'arbitre de ce France-Norvège de vendredi.
Ce sera l'anglais Michael Oliver, un arbitre très expérimenté. Les Bleus peuvent avoir l'avantage de l'arbitrage, figurez-vous, parce que c'est évidemment le retour des polémiques sur l'arbitrage, on n'y manque jamais. Certaines voix dénoncent un arbitrage à deux vitesses, fort avec les faibles, faible avec les forts. Un joueur du Paraguay a été puni d'un carton rouge pour avoir mis sa main devant sa bouche pour parler à un adversaire turc. C'est désormais interdit par la FIFA pendant cette Coupe du Monde. Alors que l'anglais Jude Bellingham, il a fait exactement la même chose pour s'adresser au Ghanéen Jordan Ayew, et c'est passé crème.
Le président de la FIFA est très content des pauses fraîcheur pendant cette Coupe du Monde.
Ça en fait au moins un. On va accompagner maintenant les meilleures déclarations de Gianni Infantino. Eh oui, sauf que lui, il blague pas.
Vous promettez tous les matins.
Je vous promets. Oh, ce sera pas difficile à trouver. Il fait un premier bilan de la Coupe du Monde. Ce mondial est incroyable. C'est l'événement le plus réussi de l'histoire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous me direz. D'ailleurs, je vais me permettre de le dire, je pense que cette chronique est la plus réussie de l'histoire. Attendez, j'y ajoute ceci. La pause fraîcheur, Gianni Infantino. Oui, on est très content. Il trouve que dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est important pour les joueurs d'avoir des moments pour se reposer. Il déçoit jamais.
Et les Bleus sont là pour conquérir une troisième étoile.
Alors, les étoiles sur le maillot, le trophée à Clairefontaine, mais surtout des pierres en forme d'étoiles. Vous vous souvenez que la ministre des Sports avait offert des pierres porte-bonheur aux Bleus avant le Mondial. Marina Ferrari s'explique. C'est des pierres en forme d'étoiles qu'elle leur a donné. Une bleue pour la réussite, une en cristal de roche blanche pour lutter contre le stress. Et elle leur offrira la rouge, la troisième, s'ils gagnent cette Coupe du Monde.
Rouge, comme un soleil couchant de Méditerranée.
C'est vraiment la meilleure chronique de l'histoire. Il y a c'est du Sardou ça. Et du Fat Boy Slim.
Honnêtement, s'ils ne sont pas motivés avec ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour eux.
Merci beaucoup Virginie, la Coupe du Monde à suivre avec RMC bien sûr. Avec la Dream Team d'RMC, vous avez 4 champions du monde pour tout analyser, tout comprendre. Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Lionel Charbonnier. Dans un instant, les GG, quel est le programme mon cher Alain Marchal? Bonjour.
Bonjour à tous, on reparlera bien sûr de la canicule. Est-ce que l'État s'est bien organisé? C'est ce que dit la ministre de la Transition écologique, Madame Barbu. Vous venez commenter ça bien sûr avec nous au 32-16, ou est-ce que c'est plutôt le gouvernement de la com qu'on a sur la canicule? L'hôpital va-t-il tenir? Question que l'on pose et on appellera notre médecin Jérôme Marty. Est-ce qu'on doit travailler ou arrêter de travailler plutôt à partir d'une certaine température? Ça fait partie des propositions. Et puis on reparlera du tabassage de ce jeune homme qui est mort à 17 ans à Narbonne, avec encore une fois de multiples fractures, plaies au visage, c'est-à-dire il est tombé dans un guet-apens. C'est des jeunes de l'ASE, entre autres. Lui, il était à l'aide sociale à l'enfance. Il a été frappé, matraqué au visage. Voilà, vous venez commenter ça avec les GG, et puis on aura la grande gueule du Parti communiste, Fabien Gay, avec nous. Il est sénateur de Saint-Denis. À tout de suite.